7h36.
Chapitre 103. Mesure du squelette du cachalot.
Je voudrais, en tout premier lieu, vous soumettre quelques remarques précises mais simples, touchant la masse de l'animal vivant, dont le squelette sera exposé dans un instant. Ce propos liminaire ne sera peut-être pas inutile. Selon un calcul minutieux que j'ai fait et qui est en partie fondé sur les estimations du capitaine Scoresby, qui attribue un poids de 70 tonnes à la plus grosse baleine du Groenland, un animal de 60 pieds de long, selon mes calculs, dis-je, le cachalot de la plus grande dimension mesure entre 85 et 90 pieds de long et une quarantaine de pieds au plus épais de la taille. Ce cachalot pèsera au moins 90 tonnes. De sorte que si l'on compte 13 hommes à la tonne, son poids dépasserait sensiblement celui de l'entière population d'un village de 1100 âmes. Ne pensez-vous donc pas que l'imagination du terrien, pour doter ce léviathan de la plus petite capacité de mouvement, doit forcément lui prêter un cerveau gros comme un couple de bœufs sous le joug? Comme je vous ai déjà présenté de diverses manières son crâne, son évent, sa mâchoire, ses dents, sa queue, son front, ses nageoires, ainsi que quelques autres éléments de son anatomie, je me bornerai maintenant à mentionner ce qu'il y a de plus intéressant dans sa massive ossature une fois mise à nu. Mais du fait que le crâne colossal occupe une partie si considérable du squelette, qu'il en est de loin l'élément le plus complexe et que nous ne reviendrons pas dessus dans le présent chapitre, il importe que les lecteurs le gardent en mémoire ou sous le bras tout le long de cet exposé, faute de quoi il ne pourra pas se faire une idée complète de la structure d'ensemble que nous allons examiner. Le squelette du cachalot de Tranque mesurait 72 pieds de long, ce qui devait correspondre à 90 pieds pour l'animal vivant, considéré dans sa pleine enveloppe charnue, car le squelette perd environ un cinquième de la longueur du corps vif. Sur ces 72 pieds, une vingtaine revenait au crâne et à la mâchoire, et 50 restaient à l'épine dorsale proprement dite. Sur un peu moins du tiers de cette épine dorsale était attachée la vaste cage ronde des côtes qui enfermait autrefois les organes vitaux. À mes yeux, cet immense coffre, avec ses côtes d'ivoire et la longue ligne droite ininterrompue de la colonne vertébrale, ne ressemblait pas peu à la carène embryonnaire d'un grand navire récemment mis en chantier, alors qu'une vingtaine seulement de ses membres nus sont posés et que sa quille n'est rien d'autre, pour l'instant, qu'une longue poutre solitaire. Les côtes étaient au nombre de 10 sur chaque flanc. La première, en commençant au cou, avait à peu près 6 pieds de long. Les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes étaient d'une longueur croissante jusqu'à la cinquième. L'une des côtes médianes, qui atteignait la longueur maximale de 8 pieds et quelques pouces. À partir de là, les côtes restantes allaient décroissant jusqu'à la dixième et dernière, qui ne mesurait que 5 pieds et quelques pouces. Pour ce qui est de l'épaisseur, celle-ci paraissait bien être proportionnelle à la longueur. Les côtes médianes étaient les plus arquées. Dans certaines îles des Arsacides, on les utilise comme arches de passerelle pour franchir de petits cours d'eau. Considérant les côtes, je ne pus manquer d'être frappé une fois de plus par le fait, souvent mentionné dans ce livre, que le squelette de la baleine n'est en aucune manière le moule du corps de l'animal vivant. La plus grande côte du squelette de la tranque, l'une des médianes, se situe à un endroit où les chairs du poisson sont les plus profondes. Et dans ce cas, cette profondeur était d'au moins 16 pieds. Alors que la côte correspondante ne mesurait guère plus de 8 pieds. Elle ne donnait donc qu'une moitié d'idée de la taille réelle de cette partie du corps chez l'animal en vie. En outre, ce que je ne voyais plus que comme une épine dorsale nue avait été naguère enveloppée de tonnes d'un matelas de chair, de muscles, de sang et d'entrailles. Plus encore, j'avais devant les yeux, en lieu et place, des amples nageoires, quelques jointures méchamment assemblées. Quant aux puissantes et majestueuses palmes de la queue, qui n'en comportent pas d'os, plus rien. Comme il est donc vain et sot, pensais-je alors, pour l'homme sédentaire et craintif, d'essayer de saisir précisément cet étonnant cachalot par le seul examen de son squelette inerte et diminué, étendu dans ce bois paisible. Non, c'est seulement au cœur des périls les plus extrêmes, dans le maelstrom de ses palmes enragées, sur l'abîme, loin de tout rivage, que l'on découvrira, dans sa peine et vivante majesté, la vérité du cachalot. Et l'épine dorsale ? Eh bien, la meilleure façon de la contempler exige une grue qui permettra d'empiler ses vertèbres les unes sur les autres. Cela se fait sans précipitation, l'entreprise achevée, on croirait voir la colonne de Pompée. Il y a une quarantaine de vertèbres en tout, qui dans le squelette ne sont pas soudées entre elles. Elles sont plutôt posées les unes sur les autres, comme les gros blocs blosselés d'un clocher gothique formant les acives massives d'une lourde maçonnerie. La plus grande au milieu est large d'un peu moins de 3 pieds et épaisse de plus de 4. La plus petite, là où l'épine dorsale s'amassit à la naissance de la queue, n'a que 2 pouces de largeur et offre quelques ressemblances avec une boule de billard blanche. Je me suis laissé dire qu'il existait de plus petites encore malheureusement égarées par de jeunes cannibales, les enfants du prêtre, qui les avaient chippées pour jouer aux billes. Où l'on voit que la colonne vertébrale du plus gigantesque animal de la création peut finir sa carrière sous les espèces réduites d'un simple jeu d'enfant.